Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, les enjeux internationaux qui reviennent sur la coopération européano-africaine, une coopération renforcée pour contrôler l'immigration. C'est ce qu'a demandé en tout cas lundi le chancelier autrichien Kurz, qui veut un nouveau sommet en décembre, mais une coopération dangereuse pour les pays et les personnes sur place. Là, c'est l'objet de votre rapport sur, je cite, les dommages multilatéraux de l'externalisation de la politique migratoire de l'Union européenne. Clotilde Varin, bonjour.
Bonjour Xavier Martinet.
Merci d'être venu. Vous êtes chercheuse pour l'Institut Klingendel, néerlandais, spécialiste des migrations. Donc ce rapport, il traite de l'externalisation. Je le rappelle, depuis 2016 environ, l'Union européenne, qui veut limiter les arrivées en Europe de migrants, finance des pays africains pour refouler et trier les migrants des demandeurs d'asile sur place. Dans trois d'entre eux, notamment Niger, Tchad, Soudan. C'est du donnant-donnant, disons. Il y a eu plus de 400 millions de dollars dépensés pour développer ou équiper les forces locales, mais au prix, on en avait déjà parlé ici, d'abord d'une déstabilisation économique au Niger, point de passage obligé des routes migratoires, et au risque aussi de mettre en danger les migrants, voire de favoriser leur production de routes et réseaux criminels. C'est le cas du Soudan, d'Omar El-Béchir, vous le montrez dans votre rapport, Clotilde Varin, où les milices Janjaweed, coupables de crimes de guerre au Darfour, tentent une reconversion en garde frontière avec des fonds européens, avec une conséquence funeste. Vous le dites, une milicianisation accrue de la région, ce qui est paradoxal pour l'Union européenne qui cherche en même temps à stabiliser cette région. Alors ces trois pays, Soudan, Tchad, Niger, ont bien sûr une frontière commune avec la Libye. Ils sont devenus un peu le réservoir de migrants en attente de demandeurs d'asile. Coopération renforcée, donc l'Union européenne aimerait étendre ses accords. Mais les pays hôtes existeront-ils toujours? Si on peut avoir juste votre appréciation sur le nombre de personnes dont on parle, le Haut Commissariat aux Nations Unies estimait à environ 90 000 personnes le nombre de personnes vulnérables dans la zone. C'est des dizaines de milliers de migrants qui sont dans ces pays, Clotilde Varin.
Des dizaines de milliers de migrants potentiels, enfin des dizaines de migrés, de déplacés. Déjà, parce que il faut le voir, si je reviens par exemple spécifiquement sur le Soudan, c'est un pays où il y a des millions de déplacés au sein même du pays, car le président Omar El-Béchir a trois fronts de guerre actifs au Soudan, au Darfour, au sud Kordofan, au Nil Bleu. Donc c'est un pays qui est en proie à une guerre civile. Hein. Et c'est pour cela, en fait, que tout ce front sur la migration et tout cette optique particulier qui est mis par l'Union européenne est assez particulier, parce que depuis le processus de Khartoum, donc novembre 2015, et puis après encore plus depuis 2016, il y a, c'est vrai, comme vous le disiez, une sorte de coopération entre l'Union européenne et le Soudan, là, puisqu'on parle spécifiquement de ce pays. C'est quelque chose d'intéressant, en quelque sorte, pour Omar El-Béchir, qui, je le rappelle, est un président en exercice depuis plus de 25 ans, mais qui s'est rendu coupable d'exaction au Darfour, hein, on en parlait, qui est poursuivi par la Cour pénale internationale pour les plus hauts crimes, enfin crimes de guerre, crimes
contre l'humanité
et génocide.
Et génocide.
Au Darfour. Alors, ce que vous disiez aussi est en effet important, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte dans nos recherches que il y avait un double jeu. En fait, au Soudan. C'est-à-dire qu'il y a une volonté affichée de la part du gouvernement de Khartoum et donc de son président, Omar El-Béchir, de dire oui, nous sommes votre partenaire, vous, l'Union européenne, et nous pouvons arrêter les migrants, nous allons faire le job, en quelque sorte, hein, si je parle dans un franglais moche. Et en fait, alors ils le font. Et de fait, il y a ce commandant des forces de soutien rapide qui sont un petit peu les plus zélés des Janjaweed. Je rappelle que les Janjaweed sont ceux qui ont commis des crimes assez importants au Darfour.
Justement, pour que nos auditeurs puissent bien comprendre, donc ces milices qui ont commis des crimes au Darfour, effectivement, qui se font appeler aujourd'hui et qui sont les forces officielles RSF, Rapid Support Force, les forces de soutien rapide, et qui jouent le rôle de garde frontière, donc qui sont en première ligne dans la gestion de ces flux. Ouais.
Tout à fait, parce que Omar El-Béchir a choisi donc les plus zélés des Janjaweed, donc de ces milices arabes, pour justement contrôler cette frontière donc avec la Libye, et ils le font, régulièrement d'ailleurs Emeti, qui je le rappelle, enfin c'est assez particulier, hein, c'est un chef de guerre, un petit chef de guerre qui n'a même pas fini l'école primaire, alors que dans les forces armées soudanaises, il y a vraiment, enfin les généraux sont des gens extrêmement éduqués et qui aujourd'hui a accédé aux plus hautes fonctions des forces armées soudanaises.
Ouais, il est le plus Mohamed Aman Dagalo. Ouais,
c'est voilà, ça. Exactement, et dont le surnom est Emeti. Régulièrement, on l'a encore entendu début septembre à la télévision nationale soudanaise. Il fait du chantage. Il dit à l'Union européenne, si vous ne donnez pas plus d'argent, on va arrêter les migrants. Mais nous, ce qu'on a mis en valeur, c'est que, en effet, il montre, et il le dit pour les médias internationaux et pour la télévision soudanaise, qu'il arrête des migrants avec photos à l'appui, pick-up, migrants arrêtés, etc. Mais surtout, en fait, ces forces qui sont et qui connaissent très bien tout le Darfour, en fait, rançonnent les migrants et surtout, en fait, sont devenus passeurs de migrants. Avec on le sait de sources sûres, avec des pick-up de l'armée, lourdement chargés de mitrailleuses, etc. Et non seulement ils sont passeurs de migrants, mais ils sont en lien direct, ces forces de soutien rapide, avec les trafiquants libyens et ils vendent ces migrants en Libye. Ces migrants soudanais, ces migrants de la Corne de l'Afrique. Et ces migrants, quand ils arrivent en Libye, ils sont dans un travail, ils sont condamnés à des travaux forcés. On rançonne, on connaît ces histoires malheureusement, hein. On rançonne leurs familles, qu'elles soient au pays ou qu'elles soient dans la diaspora. Ils vont dans des mines d'or à Kilindje, ils vont dans les champs, bâtiments.
Et la Libye les renvoie ensuite dans ces trois pays, puisque c'est le contenu des accords aussi. Beaucoup de migrants refoulés de Libye, non?
Alors, il y a eu des cas, en effet, comme vous le soulignez, de migrants refoulés de Libye, mais c'est pas refoulé, il y a pas d'État en Libye, hein, donc c'est pas refoulé par l'État libyen. Il y a eu c'est des cas un peu, on en a parlé aussi dans le rapport, mais il y a eu des cas de Soudanais qui ont choisi de retourner au Niger parce qu'ils avaient été kidnappés, ils avaient réussi à s'échapper et ils sont revenus au Niger en se disant tiens, l'OIM est là, l'OIM c'est l'Organisation internationale pour l'immigration et on va nous aider, on va nous envoyer en Europe par une voie plus légale, mais il n'y a pas de refoulement en tant que tel.
Et dans le cas de soutien qui pose question, il y avait également le cas de cité par Orient 21, de ces motos fournies par le Haut Commissariat aux réfugiés, précisément au groupe armé de cette région nord-est du Soudan, Kassala, donc les RSF. Là.
En fait, il y a en effet ce problème, c'est-à-dire il y a eu ce cas que vous citez et qui est vrai, qui était en fait au Nice, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité des forces soudanaises. Oui, ça a été un petit couac, si je peux dire les choses comme ça, un peu simplement. Et aujourd'hui, ils disent faire vraiment attention à ce qui peut servir à des milices. Parce qu'en l'occurrence, là, ce sont des milices gouvernementales, hein, les forces de soutien rapide, mais ce sont des milices. Mais ils n'ont Enfin, c'est difficile pour l'Union européenne de dire qu'ils peuvent contrôler ce qui est vraiment fait de cet équipement.
Et on n'aura pas le temps de s'attarder sur le Niger et le Tchad, mais quand même, si on peut faire une typologie rapide, on pourrait dire Niger, déstabilisation économique, vous le montrez assez clairement. Et politique aussi, avec des tensions entre Agadez et puis désormais...
entre les communautés, donc Toubou et Touareg, voilà, et le gouvernement central.
Exactement, et Tchad qui devient presque un nouveau hub de transit des migrants. Mais à quel point vous estimez le risque de déstabilisation politique de ces pays, c'est un vrai danger, ces problèmes-là, désormais?
C'est difficile de l'estimer vraiment, mais c'est un danger que de faire en sorte que vraiment la migration prime sur tout. C'est-à-dire d'ailleurs même aussi sur la lutte contre le terrorisme, par exemple. Et que ce frein migratoire soit le volet principal de la politique de l'Union européenne dans ces pays-là.
Et alors juste un mot sur les suites de cette politique. Donc l'Autriche qui s'active pour un nouveau sommet, qui veut renforcer les mesures. Il y a le ministre intérieur autrichien, Herbert Kickl, qui a renouvelé cette idée de trier les migrants sur des barges. Est-ce que ça veut dire qu'en gros, les rescapés de la traversée, c'est un peu les prochaines cibles de cette externalisation?
Disons qu'en fait, on reste dans cette politique assez paradoxale de l'externalisation à tout prix. Tout doit se passer aux frontières extérieures de l'Europe. On se rend bien compte que c'est assez compliqué. Si je prends l'exemple du Soudan, j'allais dire tous les Darfouriens qui viennent ici relèvent du droit d'asile. Donc et ils sont toujours soupçonnés d'être militants, d'être migrants économiques. Donc c'est assez étonnant, et ces politiques là, on le voit, c'est vraiment la volonté, comme après le deal UE Turquie du printemps 2016, de faire en sorte que ce soit les pays aux frontières extérieures de l'Europe, et là vraiment loin, qui fassent le travail.
Eh bien écoutez, on suivra ça, on renvoie à votre rapport en tout cas sur les dommages multilatéraux de cette politique d'externalisation de l'européenne. Merci beaucoup Clotilde Varin.
Merci
de l'Institut Klingendahl. Merci.
Merci.